Merci. Donc sur les soins de support, tu as bien introduit. Donc le pharmacien n'a pas toujours été très, très impliqué. Moi, la première, on était un peu tenus à l'écart. Tout se passait beaucoup à l'hôpital, les chimiothérapies. On était concernés que par les ordonnances. Donc petit à petit, c'est en train de changer. Donc je pense que le pharmacien d'officine, il a sa place dans les soins de support. Alors notre rôle a commencé à évoluer avec une modification de toutes les thérapeutiques existantes. Avant, on n'avait que la chimiothérapie, la radiothérapie, puis est venue l'hormonothérapie, l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Et les thérapies ciblées, bien souvent, elles se prennent par voie orale et elles sont délivrées par le pharmacien tous les mois. Le malade, ne va plus à l'hôpital régulièrement, il fait sa chimiothérapie à la maison. Donc du coup, des fois, les gens sont un petit peu perdus. Et ce qui a fait que le pharmacien était plus confronté qu'avant aux effets secondaires. Donc de plus, avec tous ces nouveaux traitements, les effets secondaires généraux, mais aussi cutanés, sont fort nombreux, notamment avec les thérapies ciblées. Et de par notre proximité, effectivement, le malade peut venir nous voir facilement, on est relativement disponible et on est proche. Pour moi, le pharmacien a toute sa place. Ça vient d'être un peu reconnu, parce qu'on a mis en place il y a très très peu de temps, ça date de l'année dernière, le ministère et puis la Sécu a mis en place des entretiens thérapeutiques pour les suivis de chimiothérapie orale, donc ce qui se passe à la maison. Et donc on a pleinement notre rôle, et ces entretiens, je vais vous en dire deux mois après, on va vraiment suivre la personne de très près et on sera le premier interlocuteur. Donc je pense que bon, il y a ce niveau-là, mais il n'y a pas que ça. Donc j'ai classé en trois niveaux d'intervention où on peut aider. Tout d'abord le niveau esthétique et dermatologique, donc la prise en charge dermocosmétique au niveau de l'acte pré-chirurgical avec l'homéopathie, la micronutrition, post-chirurgical avec l'homéopathie toujours, les soins de cicatrices, et puis également en informant sur la prévention pour adopter un protocole d'hygiène bien en amont de tous les traitements. C'est-à-dire, en gros, prendre de bonnes habitudes pour l'hygiène de son corps, pour préparer à l'arrivée des traitements. Alors, je ne détaille pas, parce que Michel m'a dit qu'il ne fallait pas trop traîner, au niveau de l'hygiène corporelle, du visage, des cheveux, etc. Donc, je passe. Voilà. Dans tous les cas, il faut choisir un produit adapté. Et le rôle du pharmacien, c'est de vous aider à choisir. Et il faut limiter, on utilise ce genre de produit pour limiter au maximum l'apparition des effets secondaires. Et il faut qu'on ait des formules les plus simples possibles, les plus naturelles possibles, et apportant uniquement les ingrédients utiles pour la peau. C'est-à-dire pas de fioritures, pas de colorants, pas de conservateurs, pas d'allergènes. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec MEM, avec Aven et Alvadiem pour les soins des pieds, qui est une gamme très naturelle aussi. Après on a le niveau suivant, c'est prévenir, limiter l'apparition et limiter l'aggravation des effets cutanés secondaires, donc principalement dans les thérapies ciblées. Pardon. Donc dès l'annonce et la connaissance de votre programme de soins personnalisé par l'oncologue, vous aurez déjà une idée des effets secondaires qui risquent de se manifester. Donc l'équipe hospitalière vous expliquera tout cela et vous pourrez ainsi intervenir en amont. Et ça, c'est très très important. Il faut préparer sa peau, préparer ses ongles, préparer ses cheveux. Il y a plein de choses à faire pour que quand on commence à recevoir le traitement, il y ait un terrain optimal, on va dire. Donc le pharmacien est là pour vous aider à choisir les soins adaptés. Au niveau des effets secondaires cutanés, donc une fois que malheureusement ils apparaissent, on peut les classer par type. Par localisation ou par type de traitement chimio, moi je trouve que la localisation c'est la plus simple. Donc il y a cinq grands axes que vous devez connaître, le cuir chevelu avec l'alopécie, la xérose, la desquamation, le prurite, l'inconfort. Donc ça nécessite une hygiène spécifique et des soins aussi spécifiques. Les mains et les pieds avec le syndrome main-pied, avec une inflammation locale, une hyperkératose. Une xérose avec une sécheresse corporelle, des squames, des fissures, des risques de prurite, d'érythème, de douleur, de sensation de brûlure. Donc ça nécessite effectivement une hygiène particulière et des soins préventifs et éventuellement curatifs. Au niveau des ongles aussi, avec une prévention ciblée contre la fragilité, l'onycholyse, les douleurs autour de l'ongle, la modification de la couleur de l'ongle, les douleurs. Au niveau du visage et du corps, on retrouve la xérose, la desquamation, le prurite, les radiodermites, les inconforts, les éruptions acnéiformes qu'il ne faut absolument pas traiter avec des produits anti-acné, la photosensibilité, et puis enfin la bouche, avec la prévention pour les mucites et les mycoses. Voilà, il est important, comme ce que je dis à tous les gens qui viennent me voir, de ne pas attendre les premiers effets secondaires des traitements, mais il faut agir en amont dès qu'on sait le diagnostic et dès qu'on sait quel traitement on va avoir. Et il faut préparer son corps des pieds à la tête. Voilà. Donc, quand ils arrivent, il faut les traiter. Et il y a plusieurs niveaux de traitement. Donc, il y a le pharmacien pour commencer. Ça peut être une nouvelle consultation à l'hôpital, la prise en charge par un pédicure, moi, que je conseille beaucoup au début de traitement, avant même de commencer quoi que ce soit. Et puis après, et voir tous les intervenants à la fois. Donc, le rôle du pharmacien aussi, là, je parle surtout des thérapies ciblées où la personne est toute seule à la maison. C'est aussi de surveiller, d'alerter pour une prise en charge médicale. Oui, le généraliste, bien sûr. Mais d'alerter aussi le généraliste. Des fois, ils n'y vont pas non plus. Voilà, ça, c'est le premier niveau d'action. Après, je vais parler un petit peu des entretiens qui vont être mis en place petit à petit dans les officines qu'ils voudront. Donc, c'est rémunéré par la Sécu pour le pharmacien. Et ça consiste en plusieurs entretiens sur un an, deux ans, voire plus. Ça demande un gros investissement, une formation validante, une mise en place d'entretiens beaucoup plus poussés dans un espace de confidentialité. Ça va au-delà des conseils délivrés au comptoir, on va dire, et ou lors des traitements de support médicamenteux qu'on a de l'hôpital. Son but, donc on doit avant tout accompagner le patient dans son traitement par voie orale. Et le but, c'est d'estimer l'autonomie, la compréhension du traitement, faire un bilan de médication sur tous les traitements autres, présenter les modalités de prise, de bon usage, sensibiliser sur la bonne observance, car là, la personne est à la maison, elle ne fait pas sa chimio à l'hôpital, elle est toute seule face à son protocole, expliquer les effets secondaires potentiels, comment on peut les gérer et comment on peut les prévenir. Aborder également, ça c'est très important, les traitements hors ordonnance et le risque d'automédication. Aborder le thème de la fatigue avec certains compléments alimentaires et certains qui sont contre-indiqués. Donc là, il faut faire aussi très attention et recueillir toutes les questions du patient. Communiquer avec le médecin traitant, avec l'hôpital si nécessaire. Je reviens sur le risque d'interaction parce qu'ils sont vraiment très importants et multiples. Ils sont propres à chaque traitement, c'est-à-dire que même plusieurs thérapies ciblées ayant le même mécanisme d'action, elles n'auront pas forcément les mêmes interactions médicamenteuses. Ça peut être avec d'autres médicaments, mais aussi avec de la phytothérapie, avec des compléments alimentaires. Ça, c'est très fréquent. L'interaction peut intervenir à différents niveaux, au niveau de l'absorption du médicament anticancéreux, au niveau de sa distribution, de son métabolisme, de son transport et de son élimination. Alors, je vais reciter deux exemples que vous devez connaître. Le pamplemousse, je pense que tout le monde le connaît. C'est un inhibiteur enzymatique. Et le millepertuis, vous connaissez aussi, voilà, c'est deux classiques. Et l'interaction, en fait, elle est due à une compétition au niveau d'un système enzymatique qui dégrade le médicament entre le complément alimentaire et le médicament anticancéreux. Donc,
le thé vert aussi.
Oui, j'en parlais. Donc, il y a une compétition. Et souvent, ça passe par les systèmes enzymatiques s'appellent des cytochromes. Ils sont souvent au niveau du foie. Et chaque médicament, certaines plantes, certains produits de santé nécessitent d'être transformés grâce à ces systèmes enzymatiques. Chacun a sa propre voie de transformation et d'élimination. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, on utilise de la phytothérapie à l'hôpital, on n'ose pas le dire on n'ose pas. Donc, c'est important le pharmacien, il est là pour écouter aussi, donc on peut tout lui dire. Donc, c'est important de signaler toute prise d'automédication ou volonté d'automédication, que ce soit en phyto, en aroma, en complément alimentaire et même en nutrition, tout court. Voilà, il faut qu'on vérifie. Alors nous, on ne connaît pas tout, parce que les traitements anticancéreux sont tellement perfectionnés et divers que bah, y a plein de bases de données, donc il faut travailler en amont. Elles ne sont pas toutes d'accord entre elles, d'ailleurs, au niveau des interactions, donc c'est très compliqué. Mais il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas une baisse de l'action du traitement anticancéreux par augmentation de destruction de celui-ci dans le système enzymatique. Soit, il faut vérifier aussi qu'il n'y ait pas une augmentation des effets secondaires et de la toxicité du médicament anticancéreux par blocage de son élimination. Donc ça, c'est hyper important. Et là, je voulais vous citer juste un petit exemple que j'ai, moi, découvert il n'y a pas très très longtemps, qui est encore un autre type d'interaction par rapport au tamoxifène, donc qui est donné en entretien, en cure d'entretien. Le tamoxifène, en fait, c'est une prodrogue qui n'est pas active. Et elle a besoin, pour être transformée en médicament actif, à passer dans un système, dans ces fameux systèmes enzymatiques, les cytochromes. Et il se trouve qu'il y a trois antidépresseurs qui bloquent complètement cette transformation. Et les antidépresseurs, ben c'est très très souvent qu'on a à les utiliser dans ces périodes difficiles. Il faut savoir qu'il y en a trois, ben ça bloque cette transformation. Et du coup, ben le tamoxifène, il reste tamoxifène dans le sang et il n'est pas actif. Donc voilà, c'est un autre aspect des interactions médicamenteuses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment parler de tout ce qu'on prend. Voilà. Donc je pense que voilà, le pharmacien est là pour ça, pour prévenir les risques, pour augmenter l'observance et éventuellement orienter les patients vers d'autres soins de support. Ensuite, on intervient également au niveau d'autres soins de support, tels que l'homéopathie, parce qu'elle a toute sa place dans la gestion complète, aussi bien au niveau de l'anxiété, au niveau de la biopsie, de la radiothérapie, des fatigues, des bouffées de chaleur, des troubles hématologiques. C'est un complément et elle est efficace sans interaction ni effet secondaire. La micronutrition aussi est très très importante car les traitements provoquent une très grosse fatigue. Donc ça, on nous fait souvent remonter. Donc la place de choix, c'est le médicament de choix en micronutrition, c'est le magnésium. Il faut faire attention, souvent les gens veulent prendre de la gelée royale par exemple, ça c'est un exemple d'automédication, c'est contre-indiqué en phase de cancer à cause de la vitamine B12 par exemple. La vitamine C, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des traitements, des chimiothérapies qui sont pro-oxydantes, et là la vitamine C est antioxydante, donc ça freinerait l'action. Donc il faut la prendre à bon escient et à des bonnes périodes par rapport aux phases de chimiothérapie. Les traitements aussi provoquent un fort déséquilibre de la flore intestinale et provoquent une perméabilité anormale du tube digestif. Donc ça entraîne la perturbation de la synthèse de neurotransmetteurs, qui sont très importants, la synthèse de certaines vitamines, une malabsorption des nutriments, alors qu'on doit au contraire garder son poids, garder sa forme. Donc ça peut aller à l'encontre. Et évidemment, comme la flore est perturbée, bah, ça baisse les défenses immunitaires. Donc on peut agir à ce niveau-là par des probiotiques, par des cicatrisants intestinaux. Alors c'est pareil, il y a des périodes données entre deux chimios pour les faire. Avec la micronutrition, on peut aussi agir au niveau des diarrhées. On peut agir aussi avant la chirurgie. Et puis tout dernièrement, alors là je me tourne, c'est à la fois une question et une suggestion. J'ai le laboratoire Pilège a sorti le PEA. Et du coup, je me disais, est-ce que ça ne serait pas adapté à la douleur chronique dans ce cas-là? Hein, voilà, donc c'est de la micronutrition et ça permet de compléter éventuellement du paracétamol pour la douleur. Il y a également la phytothérapie. Alors ça, je passerai la main. On parle beaucoup du desmodium pour protéger le foie. J'ai lu des choses contradictoires aussi, avec des signalements de pharmacovigilance. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent faire des drainages du foie. Donc il faut savoir que pas de drainage minimum 3 mois après l'arrêt du dernier traitement. Au niveau de la fatigue, il faut faire très attention aux compléments alimentaires qu'on prend. Moi j'avais lu le ginseng et le guarana ont été bien étudiés. Et apparemment il n'y a pas de contre-indication, mais bon. Les traitements évoluant, il faut vérifier tous les cytochromes voilà, on ne s'est jamais arrêté. On peut agir aussi, le pharmacien au niveau du conseil, sur l'aromathérapie. Alors, c'est un peu plus délicat, donc uniquement en voie de diffusion, par exemple pour détendre, pour relaxer, ou en voie locale, pour la cicatrisation, le lymphœdème, les mucites, les nausées. Prévention mycose, le stress, la perte des cheveux, mais il faut toujours demander conseil. Jamais d'automédication, et mais nous, on ne connaît pas trop en aromathérapie, c'est très compliqué, donc il faut vraiment faire très très attention. Le sport adapté, bon ça ne concerne pas, mais voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et puis je vais finir avec l'alimentation, donc ça je trouve que c'est hyper important. Parce que la cellule cancéreuse, elle a besoin d'un environnement favorable qui lui procure des éléments essentiels à sa progression. Et on peut agir sur cet environnement. On peut lui rendre la vie dure. En effet, la cellule cancéreuse a besoin de fabriquer des nouveaux vaisseaux pour son apport en sucre, en oxygène. Elle a besoin de facteurs de croissance. En fait, la cellule cancéreuse va détourner les outils de notre défense immunitaire, notre système immunitaire. En effet, l'inflammation générée par nos cellules immunitaires, les globules blancs, les macrophages, de façon ponctuelle est vitale pour lutter contre tous les agresseurs. Elle amorce la réparation des tissus abîmés grâce aux nombreux facteurs de croissance et à l'augmentation de la fabrication des vaisseaux sanguins. Et en fait, la cellule cancéreuse, elle va détourner ce phénomène à son profit pour se développer et elle-même créer de l'inflammation autour, et c'est le cercle vicieux sans arrêt. Donc l'inflammation chronique doit être combattue. Et elle ne vient pas que de l'extérieur. On parle toujours du tabac, des virus, des bactéries, des parabènes, des conservateurs, des colorants, etc. Mais l'inflammation, elle vient aussi de l'intérieur et elle est favorisée par notre mode de vie. Le surpoids, l'obésité et le stress, tout ça, ça crée une inflammation invisible qui fait le lit, qui favorise le développement de nombreuses pathologies, pas que le cancer, les maladies auto-immunes notamment. Donc le terrain inflammatoire donne aux cellules cancéreuses des conditions idéales pour se développer. Le lien est vite trouvé avec l'alimentation, avec donc le surpoids ou l'obésité. Les cellules sont surchargées de gras et attirent les cellules inflammatoires de notre système immunitaire. D'où les mauvaises graisses, ici. Voilà. Donc le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque, au même titre que le tabac, l'alcool ou l'exposition au soleil. Conséquence sur le conseil alimentaire, on peut modifier son alimentation et donc jouer sur ce terrain. C'est valable aussi bien en préventif, donc pour l'hygiène de vie en général, mais aussi en période de soins et en période de post-cancer. Donc pour résumer, il faut lutter contre le surpoids, il faut baisser la consommation de sucre rapide, savoir que quand on prend des sucres rapides, ça fait monter la glycémie très très vite, donc le corps ne le supporte pas, donc le pancréas derrière, il va fabriquer beaucoup beaucoup d'insuline pour faire baisser le sucre dans le sang. Mais l'insuline, c'est l'hormone de stockage. Donc ça va faire rentrer tout le sucre dans les cellules. Et les cellules cancéreuses, elles raffolent du sucre. Et en plus, ça va se transformer en mauvaises graisses qui vont elles-mêmes créer de l'inflammation. Donc ça veut dire qu'il faut supprimer tous les sucres. Il faut supprimer tous les aliments qui amènent des indices, ce qu'on appelle des indices glycémiques élevés, c'est-à-dire qui provoquent une grosse montée de sucre. Je cite juste un petit exemple, le pain. Quand vous mangez une baguette, c'est du pain blanc, c'est presque du sucre pur que vous avalez. Quand vous prenez du pain complet, il y a des protéines, il y a des fibres. Dans le sang, la courbe ne va pas être la même. Avec la baguette, ça va monter en flèche. Avec le pain complet, vous aurez une petite montée de sucre, mais c'est tout. Donc, du coup, il y aura un état inflammatoire moins grand et le pancréas va être économisé. Également, il faut augmenter les aliments protecteurs, les fruits et légumes. Il faut diminuer tous les aliments pro-inflammatoires, donc les viandes rouges, les charcuteries, et supprimer absolument tous les produits industriels, où il y a plein de choses qu'il ne faut pas. Il faut augmenter les aliments anti-inflammatoires très riches en oméga-3, tels que les poissons gras, l'huile de colza, favoriser l'huile de colza par rapport à l'huile de tournesol, parce qu'elle contient beaucoup d'oméga-3, et également diminuer, voire laisser tomber peut-être le sel, qui est pro-inflammatoire aussi. Donc il y a beaucoup à faire au niveau de l'alimentation, c'est simple, ça ne coûte rien, donc il y a juste des habitudes à changer. Je fais un aparté pour le thé vert, donc, qui est très très antioxydant grâce à ses polyphénols, et j'ai lu même qu'il agirait au niveau des récepteurs des facteurs de croissance, donc exactement comme les thérapies ciblées. Donc, le thé vert, c'est bien en prévention, c'est bien peut-être en post-cure ou entre deux phases de chimio, mais pendant les traitements médicamenteux, donc je pense qu'il vaut mieux éviter. Pareil pour la vitamine C, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est antioxydante et qu'il y a des traitements qui sont pro-oxydants. Donc, il ne faudra pas les faire en même temps. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, moi, je pense que le pharmacien, voilà, c'est une mission qu'on peut se donner. Tout le monde, voilà, ça demande de l'investissement. Mais je pense qu'on est un interlocuteur facile et privilégié. On connaît bien nos malades. Et je pense qu'on a toute notre place dans les soins de support. Et puis, on est aussi en contact avec tous les autres professionnels de santé. Donc, moi, j'espère participer comme je peux, hein, pour aider. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai amené quelques petits documents avec des conseils pratiques. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais parler de la vaccination aussi, je fais un petit aparté. C'était important de vous vacciner et contre le Covid et contre la grippe. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont peur, parce qu'ils sont sous chimio, ceci, cela, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Juste demander à l'oncologue à quel moment c'est le plus favorable quand on a des chimios à répétition. Je mets les petits livres à disposition. Donc il y a le laboratoire même qui développe une gamme très, très spécifique de produits complètement naturels. Donc les deux créatrices ont été confrontées à la maladie au sein de leur famille. Elles se sont rencontrées à l'hôpital, je crois. Et elles ont décidé de créer des gammes. À l'époque, rien n'existait. Bon, il y avait peut-être les labos dermatologiques type Avène ou La Roche-Posay, mais qui étaient moins spécifiques. Et puis, elles ont fait une belle gamme, une gamme cosmétique et puis une gamme de soins aussi. Et cosmétique aussi, voilà, pour garder sa féminité et puis rester belle, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous remercie, puis bon courage.